France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, municipal 2026, Paris, Lyon, Marseille, un nouveau scrutin très scruté. Nous serons avec le politologue Jérôme Jaffré, la sondeuse Adélaïde Zulfikar-Pazik, l'essayiste Raphaël Lorca et l'éditeur Arthur Chevalier. Une émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
On a un sujet en fait, c'est-à-dire que j'ai face à moi un candidat qui est directement issu du parti fondé par les nostalgiques de Pétain, un candidat qui ne sait pas qui est Pétain, et une candidate qui reprend les mots de Pétain. Et la droite m'accuse à moi de parler du Rassemblement National, mais moi je le combats le Rassemblement National. Mais pour combattre le Rassemblement National, il faut poser des bons, il faut poser des actes, il faut avoir un programme. Et c'est un programme qui est l'inverse de celui du Rassemblement National. Notre ville est l'inverse du Rassemblement National. Notre âme est l'inverse de ce que prône et porte le Rassemblement National. Nous ne sommes que le fruit de nos propres histoires. Nous ne sommes pas un village gaulois à Marseille. Nous avons tous des aïeux, nous descendons tous de gens qui arrivent d'ailleurs, qui ont une histoire différente.
Benoît Payan, maire sortant de Marseille, à propos de ses principaux adversaires dans l'émission Rue de la République sur Maritima Radio, en partenariat avec la Marseillaise le 1er mars. Un peu plus tôt, le 19 février, la candidate LR, soutenue par Renaissance, Martine Vassal, avait repris la devise de Philippe Pétain à son compte lors d'un débat sur BFM TV, dans un contexte où, pour la première fois et à un an de l'élection présidentielle, le Rassemblement National semble en mesure de l'emporter dans la deuxième ville de France. Un séisme prédit déjà le maire sortant si cela arrivait. Le contexte international qui s'invite avec fracas dans l'actualité éludera-t-il ce scrutin, comme la pandémie de Covid-19 l'avait relégué il y a 6 ans, au point de décaler le second tour au mois de juin. À une semaine tout juste du premier tour, et alors que ces élections municipales semblent passer un peu sous les radars médiatiques, nous vous proposons une émission consacrée à ce scrutin, et plus précisément aux 3 plus grandes villes de France, Paris, Lyon et Marseille, celles qui viennent de changer de mode de scrutin pour la première fois depuis 1982. Les électeurs votent directement pour les listes à la mairie centrale, en plus de celles de l'arrondissement. 2 urnes, 2 listes qu'on peut choisir distinctes, 3 à Lyon, où l'on vote aussi pour la métropole. Quelles conséquences sur le choix des électeurs? Dans ces grandes villes, un triptyque d'intérêt semble se dégager. Sécurité, propreté, logement. À Lyon, la culture occupe une place centrale dans les débats. Mais la mort du militant Quentin Derenque, lynché dans la rue le 14 février, impactera-t-elle les résultats sur place et au-delà de la ville dans les alliances de second tour? Des débats que certains, en général, les favoris sèchent au grand jour, y compris à Paris. Cette stratégie est-elle payante? On en débattra. Les Parisiens auront-ils envie d'alternance après 25 ans de gestion socialiste? L'écologiste Grégory Doucet sera-t-il désavoué à Lyon après un mandat seulement? La cité phocéenne peut-elle basculer au RN? Et dans ce cas, quelles conséquences pour 2027? Autant de questions et beaucoup d'autres que nous aborderons ensemble dans cette émission. Bonjour Jérôme Jaffré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au CEVIPOF de Sciences Po. Bonjour Adélaïde Zulfikar-Pazik.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale du pôle société chez Ipsos BVA. Je cite votre dernier livre, Réhumaniser la société de l'absence, aux éditions de l'Aube. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes éditeur chez Passé Composé, chroniqueur au Point. Votre dernier ouvrage aux éditions du Cerf, L'histoire à l'épreuve des émotions. Et enfin Raphaël Lorca, bonjour.
Bonjour.
Expert associé à la Fondation Jean Jaurès, où vous êtes co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique, auteur du roman national des marques en 2023 aux éditions de l'Aube. Un mot d'abord sur ce nouveau mode de scrutin que j'ai essayé de décrire en introduction. Jérôme Jaffré, qu'est-ce que ça change pour les électeurs et pour les candidats?
Ça change tout. À Paris, Lyon et Marseille, Paris, si vous voulez, n'a pas eu de maire entre la Révolution française et Jacques Chirac en 1977, donc déjà un maire, ça n'est pas si vieux. Et Paris n'a jamais voté sous la Troisième République, sous la Quatrième et sous la Cinquième, autrement que par secteur ou par arrondissement. Il n'y a jamais eu de vote global à Paris. Il y a plus d'1 million 200 000 inscrits qui vont voter donc directement pour élire le maire. à Marseille et à Lyon, comme vous le rappeliez, d'abord c'était un vote complet sous la 4e République, mais à la proportionnelle entre les listes, et sous la 5e, c'est un vote par secteur également, et donc ça change tout, parce que la campagne devient une campagne globale, et l'enjeu devient beaucoup plus directement politique, avec des résultats dont vous avez souligné qu'ils peuvent être tout à fait considérables. Donc c'est une situation qui change. J'ajoute, c'est trois villes de gauche au départ, hein, ne l'oublions pas. Paris est détenu par les socialistes depuis 25 ans, excusez du peu, mais c'est après 25 ans de Jacques Chirac et de ses séides. Lyon a été gagné par les écologistes, qui est une ville qui n'est pas traditionnellement de gauche, mais a été gagnée par l'écologiste Doucet, vous l'avez dit, en 2020. Et Marseille, c'est le printemps marseillais de Benoît Payan. Marseille, c'est une ville très disputée, mais Gaston Defferre, il en a été le maire très longtemps. Donc, il y a un enjeu aussi très fort. J'ajoute dernière chose, la caractéristique politique de ces municipales, c'est que c'est un scrutin majoritaire sans majorité. C'est la caractéristique. Les listes gagnantes, et ça n'est pas là que Paris, Lyon et Marseille, le seront souvent au soir du second tour, avec un score extrêmement minoritaire, dans des triangulaires, quadrangulaires, pentagulaires, cinq listes
vous
présentes
au second tour. Vous dites pentagulaire, il y a un débat là-dessus, Jérôme Jaffray.
Oui, il y a un
Jérôme
débat, d'autres disent quinquagulaire, mais je me suis dit, face aux éminents linguistes ici présents, qu'il fallait montrer qu'on n'était pas limité.
C'est quand il y a cinq listes qui se maintiennent au-delà
listes,
de 10%.
Voilà. On aboutit à ça. Et à ce moment-là, la prime qui est donnée. Alors à Paris, Lyon et Marseille, la prime à la liste gagnante, c'est 25% des sièges. Partout ailleurs, c'est 50% des sièges. Mais si vous gagnez avec seulement 35% des suffrages, on voit l'ampleur de la déformation que crée un scrutin majoritaire. Sans majorité, mais je ne veux pas m'exprimer tout seul pendant toute l'émission.
L'avantage dans cette émission, c'est qu'on a le temps. Merci pour cette première prise de parole, Jérôme Jaffray. Adélaïde Zulfikar Passy, quel est votre avis, vous, en tant que sondeuse, sur ce mode de scrutin? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on voit déjà des conséquences dans la campagne en termes de personnalisation? Certains disent que c'est plus démocratique. Quelle est votre perception?
Du point de vue de sondeuse, même si Jérôme Jaffray a dit que ça changeait tout, j'ai l'impression que ça change finalement pas tellement, parce que si je prends notamment par exemple la façon dont on fait les sondages, quand on travaille sur des sondages pour ces villes, Paris, Lyon et Marseille, c'était déjà le cas avant le changement de mode de scrutin, on était déjà sur, quelque part, une façon un peu biaisée d'interroger les sondés, puisqu'on les questionnait, non pas sur un scrutin forcément arrondissement par arrondissement, mais on avait déjà tendance à personnaliser leurs réponses en leur demandant s'ils se projetaient pour une liste plutôt d'un candidat, avec la tête de liste qui était déjà la personne qui menait la campagne au niveau global. Donc je ne suis pas certaine que ça change complètement dans l'esprit des Parisiens. En plus, je fais une hypothèse, mais peut-être que je me trompe, je ne suis pas certaine que les Parisiens, les Marseillais ou les Lyonnais ont une connaissance extrêmement précise du mode de scrutin et du changement du mode de scrutin. C'est quand même assez complexe, je trouve que pour comprendre les évolutions, il faut se plonger dans le sujet et savoir qu'avant on élisait un maire d'arrondissement qui lui-même allait ensuite voter pour un conseil municipal qui ensuite allait élire un maire et qu'aujourd'hui en fait on saute une étape et on a un raccourci. Je suis pas certaine que ce soit complètement une évidence et je pense que dans l'esprit des Parisiens, des Marseillais ou des Lyonnais, il y avait déjà cette dimension comme de personnalisation. La campagne municipale de 2020, alors qui a été un peu occultée, vous l'avez rappelé en introduction par le Covid, on était déjà sur est-ce que je vote pour Anne Hidalgo ou pas, mais il y avait comme cette dimension de l'articulation avec l'arrondissement, mais voilà, donc je suis pas certaine d'un point de vue du sondeur que ça change complètement les choses pour l'électeur, mais peut-être que je me trompe.
Abstention record, hein, on le rappelle au premier tour des municipales de 2020.
Complètement, avec un décrochage, on était sur une tendance de participation autour de 65-63% encore en 2014, en 2020 on est tombé à sous la barre des 50%. Une abstention qui s'explique principalement par la peur de certains électeurs de se rendre aux urnes, et notamment les plus âgés, peur de se retrouver dans un lieu avec beaucoup de monde. La question qui peut se poser aujourd'hui, vous l'avez dit aussi en introduction, c'est quel va être l'impact du contexte international. Est-ce que ça va détourner ou pas les électeurs des urnes, parce que, vous l'avez dit, la campagne elle est en partie occultée, elle passe un peu sous les radars en ce moment. Dans un contexte déjà où on avait, à mon sens, deux tensions à l'œuvre, d'un côté, on est quand même dans une crise de défiance, une crise politique qui s'est accentué depuis 2024 et la dissolution. Bon, ça fait 30 ans qu'on dit que les Français sont lassés des politiques, mais depuis 2 ans, ça s'est exprimé de manière beaucoup plus aiguë, avec une fatigue démocratique qui s'est accentuée. Et les Français ont des mots très forts. Ils parlent de dégoût, de colère, depuis la valse des premiers ministres et le feuilleton tragico-comique du budget. Donc on a d'un côté ça qui pourrait prôner pour une participation encore en baisse. En même temps, le local reste une valeur refuge, si je puis m'exprimer ainsi, dans ce contexte justement de crise. Donc on est un peu dans ces deux pôles de tension, et par-dessus ça, il y a cette crise internationale qui pourrait détourner encore les électeurs des urnes.
Arthur Chevalier, l'avis de l'éditeur, elle prend pas cette campagne. Je vous avoue, une anecdote personnelle, hein, j'ai dû aller me rendre dans un commissariat parisien pour des raisons administratives idiotes. Beaucoup de Parisiens venaient faire des procurations, ça m'a beaucoup étonné par rapport au manque d'écho médiatique.
Déjà, pour commencer, ça va être les premières élections depuis la dissolution. Donc, cette dissolution des partis politiques, on avait réclamé une nouvelle. Bon, on a eu l'impression, vaguement, sans avoir d'ailleurs de certitude quant à ce que pensaient vraiment les Français, mais admettons que les gens voulaient encore des nouvelles élections. On sait aussi que dans certains états-majors de ces grandes villes, mais pas seulement, d'autres grandes villes, Toulouse, Nice, on craignait un peu une nouvelle dissolution qui aurait créé un scrutin rapproché entre des législatives et des municipales, puisqu'en fait, la question, c'est à quel moment s'exprimera la colère ? À voir les sondages, quand même, je pense qu'il est assez clair pour les 3 villes dont nous parlons, mais aussi pour d'autres grandes villes que je viens d'évoquer, que la colère est bien là. Il y a un contexte national qui va forcément avoir une conséquence sur le contexte local. Je trouve aussi que pour autant qu'on puisse croire les sondages, évidemment, on parle de photographie de l'opinion, je trouve quand même que ça montre la faiblesse extraordinaire des partis politiques qui vraiment n'ont rien à voir avec la démocratie, qui est une chose de laquelle j'ai toujours été assez convaincu. C'est-à-dire qu'en fait, regardez ce qui se passe à Lyon. Jean-Michel Aulas, qui est sans parti, même s'il est soutenu par le centre droit, mais enfin, c'est la personnalité qui prend le dessus. C'est Jean-Michel Aulas, c'est une méga star à Lyon. À Marseille, ce duel complètement inattendu entre Payan et Alizio du RN. Alizio n'est pas un excellent candidat jusqu'ici historiquement. Et quant à Paris, finalement, on n'arrive pas à comprendre ce qui va se passer entre Sarah Knafo, Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati. Enfin, la force des partis est vraiment reléguée au second plan. D'ailleurs, il se dit de plus en plus que pour le deuxième tour, les consignes de vote, habituellement, ça partait d'en haut et de l'état-major des partis, c'est-à-dire retire-toi, barrage républicain. Je vous donne un exemple. Là, de ce que j'entends dire, c'est que, pas du tout. Ils disent en fait, ça va être des décisions très locales, l'importance du haut commandement va être beaucoup moins fort. Donc, je dirais que c'est un petit peu à l'image de la recomposition très active du pays. Et dernier point, quand même, on ne peut pas ne pas remarquer l'extraordinaire disparition du centre-droit et du parti ou des candidats qui ont été très liés à Emmanuel Macron. C'est un fait clair, je veux dire, même des très bons maires. Par exemple, on voit la mise en danger de Christian Estrosi à Nice, qui n'a pas été un grand macroniste, mais qui a été quand même allié au président de la République, et on lui reproche énormément. On pensait que ça n'aurait pas d'impact dans les sondages. La vérité, c'est que ça en a un énorme. Donc voilà, je trouve que c'est le révélateur de beaucoup de choses. C'est un moment de vérité.
Raphaël Lorca.
Oui, je voulais ajouter quelques mots à ce que vient de dire Arthur Chevalier sur la perception de cette campagne. Cette campagne, ça y est, on a le sentiment qu'elle a démarré. Elle a démarré très tard. Il faut rappeler qu'elle a longtemps été polluée par la question du vote du budget, qui est intervenu extrêmement tardivement, le 7 février dernier. Et puis, vous le rappelez dans l'introduction, cette actualité internationale qui est extrêmement riche. Et il me semble que le bon précédent, c'est pas tant les dernières municipales et la question du Covid, c'est la dernière présidentielle et la question de l'Ukraine. C'est-à-dire que on rejoue une nouvelle fois la question d'un scrutin important, escamoté par une actualité internationale qui nous percute. Et je trouve que ça pose tout de même un problème démocratique. C'est-à-dire que je crois qu'on va devoir quand même collectivement apprendre à mener un débat public de qualité indépendamment de ce qui peut nous arriver de par l'extérieur. Et certains prospectivistes parlent d'un monde en permacrise, c'est-à-dire que une sorte de crise permanente. Donc évidemment, pour l'instant, l'actualité médiatique et politique vit sous le registre de l'édition spéciale. C'est-à-dire, imagine-t-on parler de questions de logement et de propreté au lendemain du 11 septembre ? Certainement pas. Mais justement, dans un monde où les crises semblent de plus en plus fréquentes, il va falloir qu'on apprenne collectivement à savoir mener un débat public de qualité. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'était peut-être de dire que cette actualité internationale, c'est une sorte de coupable idéal, quand même. C'est-à-dire que il me semble que la responsabilité de cette campagne qu'on pourrait qualifier de campagne molle est très largement partagée. Peut-être, premier point, du côté des médias. C'est que je crois que dans une démocratie qui prend soin d'elle-même, une crise internationale, aussi importante soit-elle, ne devrait pas escamoter un scrutin important qui est celui des municipales. Mais peut-être la responsabilité la plus forte, me semble-t-il, est à trouver du côté des responsables politiques eux-mêmes. Quand on voit un Bruno Retailleau se déclarer candidat à l'élection présidentielle 3 semaines avant un scrutin qui est très important pour la famille politique qu'il dirige, sincèrement, on croit rêver. Quand on voit qu'une Rachida Dati refuse, à l'échelle de Paris, d'intervenir dans aucun des débats qui ne sont organisés, et qui, de ce fait-là, a conduit, c'est une nouvelle qui est intervenue très récemment, à l'ensemble des télévisions, à savoir LCI, BFM et CNews, qui devaient tenir des débats, à annuler par le simple fait que Rachida Dati ne serait pas là. Donc on voit bien qu'il y a quand même du côté des responsables politiques une responsabilité qui est importante dans cette campagne qui ne prend pas. Et puis dernier point, je crois qu'on peut d'autant plus le regretter que cette campagne intéresse. Et j'en veux pour preuve une très belle enquête de l'IFOP pour l'Institut Terram, menée par François Cros. Il montre qu'à un mois du scrutin, parce que cette enquête date du mois de février, l'enquête Terram, l'intérêt pour les élections municipales est au plus haut depuis, tenez-vous bien, 1965. 78% des citoyens se disent intéressés par le scrutin municipal. Les scores étaient de 66% en 2020 et de seulement 57% en 2001. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une demande de politique, il y a un intérêt pour ce scrutin municipal, mais la demande, pour le coup, ne rencontre pas l'offre.
On va parler des débats dans un instant. J'ajoute quand même que pour celui qui s'est tenu à Paris, sur France 3 Île-de-France, il y en a un qui s'est tenu, qui est disponible d'ailleurs à la réécoute. Rachida Dati n'est pas venu, vous l'avez dit, Raphaël Yorka, mais Emmanuel Grégoire non plus. Le candidat socialiste était représenté.
Je te précise une chose, les débats municipaux qui ont été filmés sur BFM TV, d'accord, il y a eu à Lyon, à Marseille, ont fait des scores d'audience incroyables.
Allez-y, Adélaïde Zulfikar-Pasic.
Je voulais simplement ajouter quelque chose qui rejoint ce que vient de dire Raphaël Yorka, et c'était pour rebondir sur votre remarque sur les Parisiens qui font des procurations, et donc qui témoignent effectivement d'un certain intérêt pour ce scrutin, intérêt qui est effectivement élevé, on le mesure dans les enquêtes Ipsos BVA également. En fait, ce qu'on observe traditionnellement, et je pense que Jérôme Jaffray pourra le confirmer, c'est que la participation est d'autant plus importante que l'électeur a le sentiment que son vote peut compter. Et quand il a l'impression que les jeux sont faits, il n'est pas très motivé, il se dit à quoi bon aller voter. Or, justement, dans les villes dont on parle ce matin, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, on voit qu'on est dans un contexte de très forte incertitude. On a beaucoup de mal, alors en quête d'opinion à l'appui ou pas, mais à comprendre ce qui va se passer au soir du premier tour et encore moins au soir du second tour. Donc tout ça est de nature à favoriser une participation et un intérêt important, d'où peut-être ces Parisiens nombreux que vous avez croisés au commissariat.
Surtout qu'on entend beaucoup, Jérôme Jaffray, parmi les équipes de campagne, que tout va se jouer au premier tour, que le plus important, c'est d'être devant.
Oui, ça c'est un principe politique minimum, effectivement. En vérité, tout va se jouer entre le dimanche soir et le mardi à 18h, car c'est la question diffusion. Les listes doivent être déposées du second tour le mardi à 18h. Je rappelle, pour nos auditeurs très informés, il faut 10% des suffrages exprimés pour pouvoir se maintenir, avoir le droit de se maintenir ou de fusionner, bien entendu. Et il faut entre 5 et 10% des suffrages exprimés pour pouvoir fusionner, mais on n'a pas le droit de se maintenir si on est seulement entre 5 et 10%. Donc cette barre des 10% devient la question principale des enquêtes d'opinion que nous citons. Par exemple, à Paris, nous avons la liste Sarah Knafo et la liste Pierre-Yves Bournazel qui tangentent ces 10%. Nous avons à Marseille et à Lyon la liste LFI qui et même à Paris aussi avec la liste de Chikourou
pour Sophia LFI,
une situation d'incertitude par rapport à ça. Et du coup, il n'y a pas que la question de qui est devant. Qui passe les 10%? De qui peut-on ignorer au second tour la place? Car il y a des questions politiques absolument majeures quand même pour ces élections municipales. Question politique majeure, c'est d'une part jusqu'où va la droitisation et l'extrême droitisation du pays. Est-ce que le Rassemblement national est capable de transformer aux élections municipales sa puissance apparemment au moins d'opinion et potentiellement électorale? Le sondage de l'IFOP qui est paru sur les intentions de vote présidentielles, au premier tour actuellement, sont des intentions de vote quand il n'y a pas de vote devant nous pour la présidentielle. 36% à Bardella et 42% si je totalise tous les candidats d'extrême droite. C'est des scores hallucinants. 23% en 2022 en 2017 pour l'extrême droite, 32% en 2022, aujourd'hui intention de vote 42%. Donc jusqu'où va le RN? Deuxième question, la question des alliances à gauche. C'est la question fondamentale de l'entre-deux-tours. Est-ce que les socialistes sont contraints ou pas contraints de prendre LFI, que là où LFI est capable de se maintenir, et quel jeu joue à ce moment-là LFI, et quand LFI n'est pas pris avec les socialistes ou même doit se retirer, est-ce que les électeurs LFI au second tour vont voter socialiste malgré les relations maintenant qui existent entre ces deux partis? Et tout ça, ça pave le chemin vers 2027, c'est-à-dire que ces municipales sont donc préparatoires de ce qui va se passer dans un an.
Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action.
Oui, mais j'ai compris.
Ah, c'est à vous ? Ah ben, je vais vous la guider. Moi, je serai la mère des résultats.
Oui, écoutez, bon, aujourd'hui, c'est un peu à la mode de se déguiser en ce que vous voulez pour essayer de convaincre les électeurs. Bon, Rachida Dati déguisée en ramasseur de poubelles, bon, c'est sympa, mais elle colle pas vraiment au personnage. Après, la question, c'est de savoir si les Parisiens ont envie d'un clown ou d'un acteur, ou s'ils ont envie de quelqu'un qui dirige la ville. Je préfère avoir des élus qui se mettent un peu, j'allais dire, dans la ligne de ce que fut le Paris de Jacques Chirac ou de Tibéri, qui était un Paris bien géré, qui était un Paris où on était en sécurité, plutôt que de jouer les acteurs de troisième classe à Hollywood en se déguisant, en, je sais pas, là, en éboueur ou en peut-être demain, je sais pas, ramasseur de crottes.
Le candidat du Rassemblement National à Paris, Thierry Mariani, sur ses réseaux sociaux, une vidéo de lui en train de regarder une vidéo de Rachida Dati, candidate elle aussi à la mairie de Paris, la première qu'elle ait postée et qui semble avoir lancé la campagne. Vous en souvenez peut-être, elle avait donné le ton. Elle était avec des éboueurs, en tenue d'éboueurs, dans les rues parisiennes. Elle pensait pouvoir se passer de journaliste. Et puis finalement, elle est revenue dans le débat avec les journalistes. On sent énormément de communication. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans cette campagne. TikTok, d'ailleurs, on va en parler, prend un rôle majeur. Est-ce que ça enlève les débats de fond, à votre avis, Raphaël Yorca? Est-ce que c'est tout à fait normal? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Votre avis sur ce point précis?
Oui, alors, d'abord, on peut être surpris de voir dans ce son Thierry Mariani être relégué à un simple commentateur. C'est-à-dire qu'on attendrait quand même d'un homme politique candidat de faire autre chose que de commenter les vidéos de ses adversaires. Mais bien au-delà, moi, ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est que d'un point de vue un peu méta, ce son illustre assez bien l'affrontement entre deux visions de la com, précisément. D'un côté, on a la conception d'une communication politique qui doit être, au fond, au service d'un projet, d'une vision, d'un programme. Et donc, il y a quelque chose d'assez descendant, c'est-à-dire que c'est tout l'objectif, ce serait de trouver les bons mots, la meilleure façon d'expliquer une position, etc. Et de l'autre, on a une vision de la communication qui cherche, en réalité, davantage à entrer en contact avec les gens. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus horizontal et donc c'est davantage une façon d'entrer dans la bataille pour l'attention, de créer un capital sympathie, une connivence, etc. Bon, dans l'idéal, on a la capacité à entrer en contact avec les gens pour ensuite s'élever sur un discours plus général. Là, ce qui frappe dans le cas de Rachida Dati, c'est qu'il y a une sorte de mise en scène très personnelle. C'est-à-dire que si c'était au service de ce que Jacques Rancière, le philosophe Jacques Rancière, appelait un meilleur partage du sensible, c'est-à-dire que faire cette mise en scène au service d'une meilleure visibilité de cette catégorie des éboueurs, et ça, on a l'impression que c'est quelque chose de très autotélique et que ça sert exclusivement quelque chose qui de l'ordre de la notoriété. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça? À mon avis, c'est que ça répond aussi à une logique politique, c'est-à-dire qu'elle est confrontée à l'irruption tonitruante d'une Sarah Knafo qui vient grignoter et de l'attraction et des parts de voix. Sarah Knafo qui, je le dis juste en passant, a un positionnement et un discours sur lequel on ne l'attendait pas. Sur la thématique de la ville heureuse. On ne l'attend pas parce que j'ai regardé l'ensemble des slogans des autres candidats Reconquête. Jean Messia à Évreux, à la reconquête d'Évreux. Isabelle Lamarque à Orléans fait campagne autour de la lutte contre l'islamisation. Benoît de Bézon à Bourg-en-Bresse, lui, parle de la droite unie pour les municipales. Mais à l'échelle du Rassemblement National, Franck Alizou à Marseille, dont on parlait tout à l'heure, Marseille en ordre. Thierry Mariani, dont on vient de reparler, quelque chose de beaucoup plus nostalgique, retrouvons Paris. Bon, on voit bien que ce territoire de la ville heureuse, elle est en train d'expérimenter quelque chose d'assez nouveau pour l'extrême droite, c'est-à-dire au fond qui consiste à essayer de projeter
une extrême droite dans un territoire beaucoup plus utopique, en réalité, beaucoup plus aspirationnel, qui est en rupture avec son propre camp, qui est en rupture d'ailleurs avec la campagne d'Éric Zemmour en présidentielle, qui était beaucoup plus sombre, avec une tonalité beaucoup plus décliniste, etc. Donc on voit bien, mais pour répondre à votre question, l'importance de la communication est très importante. C'est-à-dire que quand on regarde dans le cas de Sarah Knafo, on a l'impression que c'est davantage un mood, une ambiance. Le philosophe Brice Bégou avait écrit au Seuil un merveilleux livre sur le concept d'ambiance. On a l'impression qu'elle nous plonge comme ça, dans une, avec ses tenues très, très jaunes, très ensoleillées, avec, avec un sourire qu'elle arbore en permanence. Mais quand on regarde dans le détail du programme, la ville heureuse, supprimer la moitié des fonctionnaires, la ville heureuse avec des campagnes faites par IA pour regarder, pour montrer une ville envahie par les poubelles, etc. Franchement, voilà, on voit bien que la communication rencontre ses limites.
Avec une police jaune inspirée du candidat très à gauche de New York qui a gagné la ville, Zoran Mamdani, et beaucoup d'intelligence artificielle. D'ailleurs, on sent qu'elle a imposé ça dans la campagne parisienne, Adélaïde Zulfikar Passic. Maintenant, les autres candidats après elle, utilise l'IA.
L'IA, c'est intéressant parce que je pense qu'on vit vraiment la première campagne sous IA. Et d'ailleurs, on peut faire l'hypothèse que ça va être un vrai sujet aussi en 2027 parce qu'on voit qu'on a un usage exponentiel. Ça pose plein de questions. Ça pose des questions sur l'information, sur le sens critique, sur comment est-ce que les gens arrivent à démêler le vrai du faux. Il y a toute l'utilisation qui peut être faite par les candidats, effectivement, de l'intelligence artificielle. Vous le soulignez. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est l'utilisation qui peut être faite par les électeurs eux-mêmes de l'intelligence artificielle. On sait on observe très clairement qu'il y a un usage exponentiel de l'IA de manière très générale dans la vie quotidienne des gens. Ils s'en servent de plus en plus pour se renseigner sur tel ou tel sujet, pour décider quels produits ils vont acheter, à quels services ils vont recourir. Et on a fait une enquête Ipsos BVR en tout début d'année sur l'utilisation de l'IA pour se renseigner sur un parti politique ou sur une personnalité. On a aujourd'hui un Français sur quatre qui déclare avoir déjà eu recours à un outil d'IA génératif pour se renseigner. Un Français sur quatre également qui dit « je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai l'intention de le faire ». Donc au final, c'est un Français sur deux qui dit « je vais utiliser un outil d'IA génératif pour me renseigner sur la politique ». C'est particulièrement vrai chez les plus jeunes. Pour les municipales, je vous donne un chiffre, 64% des 18-24 ans ont l'intention de recourir à une IA pour se renseigner sur le scrutin. Donc on va avoir devant nous des primes votants qui vont aller voter pour la première fois et qui, pour faire leur choix, vont en grande partie s'appuyer sur l'IA avec différents types d'usages. Certains, c'est pour mieux connaître les programmes, mieux connaître les propositions. Mais on a aussi des gens qui nous disent « je vais m'en servir ». Pour pouvoir m'aider à voir quel est le parti ou la liste qui est le plus à même de répondre à mes aspirations. Et donc ça devient presque un déterminant du vote. Et je trouve que avec toutes les questions que ça pose, questions de souveraineté, questions encore une fois sur les sources d'information, c'est quelque chose qui est assez préoccupant. Et sachant qu'on va effectivement on va avoir ce sujet qui va être encore là avec encore plus de force au moment de la présidentielle.
Mais peut-être qu'il vient aussi combler un vide, hein, puisque comme on ne parle pas beaucoup des propositions, c'est vrai que l'IA c'est très pratique pour se demander qui propose. Pose quoi, Arthur Chevalier ?
Alors, déjà, je voudrais répondre à ce qu'a dit Raphaël. Et sur la campagne, par exemple, l'image de Rachida Dati qui va avec les éboueurs, je pense qu'il n'y a pas un électeur dans ce pays qui pense sincèrement que les hommes politiques ne font pas de la communication pendant une campagne. Ils savent très bien que les hommes politiques mentent ou exagèrent pendant une campagne politique, c'est le principe. Hein. Ils le savent. En revanche, ce qu'ils veulent, c'est que pendant une campagne, l'homme politique montre qu'il veut la chose. C'est celui qui la veut la plus qui l'aura, entre guillemets. Et donc, du coup, bien sûr qu'on sait qu'il y a une part de comédie, mais on veut qu'il se contraigne lui-même. Tu veux être élu, eh bien, dans l'image de Rachida Dati, les gens savent évidemment qu'elle ne va pas aller avec les éboueurs et qu'il n'y a pas plus de proximité avec les éboueurs que ça. Mais ils savent qu'elle s'est levée à 5h du matin, qu'elle a fait sa séquence et qu'elle se force à faire une chose qui n'est pas elle et qui n'est pas son quotidien. Voilà, donc elle bosse globalement. La campagne d'Emmanuel Grégoire, par exemple, à Paris, c'est pas une campagne où il y a moins de communication. C'est un choix de communication. Cette sobriété, ce silence. Alors, on peut penser que c'est plus chic et plus digne. C'est un point de vue. Ça me fait penser à ce que n'avait pas voulu faire Lionel Jospin dans sa campagne présidentielle de 2002. Il l'a payé très cher, il n'était pas au deuxième tour. Donc moi, les campagnes non engageantes, je dirais qu'elles engagent surtout ceux qui ne veulent pas les faire et ils verront le prix que ça peut coûter. Deuxièmement, sur Sarah Knafo, qui est qui fait une campagne très surprenante par rapport à l'identité de son parti, je pense qu'on met un peu vite de côté. Alors l'IA, le jaune, le code couleur, le côté la ville heureuse, effectivement, les bonnes politiciennes, hein, il faut bien le dire, je pense qu'on met un peu vite de côté la multiplication des séquences littéralement humiliantes pour ses adversaires sur des questions de fond. C'est-à-dire que Sarah Knafo, dans les débats, en réalité, se montre assez coriace. Elle a face à elle des élus de la ville de Paris, aux manettes depuis longtemps, qui sont incapables de répondre sur des questions très précises de chiffres. Elle est assez préparée. Je ne dis pas qu'elle a raison, je dis juste qu'on ne peut pas imaginer que politiquement, ça n'ait pas d'impact au bout d'un moment.
Elle-même s'est trompée quand même sur le pass Navigo dans une séquence qui a
C'est pas ce que je suis en train de dire. On ne peut pas imaginer que Sarah Knafo, qui dépasse 10%, il n'y ait pas des explications. Je veux dire, il faut bien qu'on en trouve. Ça ne peut pas être un miracle de la vie politique. Il y a bien des clés d'explication. Et il y a aussi autre chose. Vous avez parlé, par exemple, de la suppression de la moitié des fonctionnaires à Paris. Des choses qu'on décrète collectivement comme aberrantes, mais qui sommes-nous pour décréter ça? Je veux dire par là que je pense aussi que dans ce pays, dans la crise politique que traverse ce pays, les gens en ont aussi marre que les gens veulent le pouvoir pour ne rien en faire. Et c'est-à-dire que répondre « on ne peut pas faire ça », l'impuissance, ça ne peut pas être un argument de politique. Je prends un exemple très rapide, mais dans ce pays, parfois, pendant 15 ans, on a radicalement changé les choses sans avoir spécialement d'argent. Vous voyez, on a créé des codes civils, on a réformé tous les hautes cours publiques, on a créé une nouvelle magistrature. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'argument de « on vient pour ne rien faire », je ne suis pas sûr que ça tienne très longtemps dans un pays en crise. Et je pense que dans le modèle Sarah Knafo, mais il n'y a pas qu'elle, en réalité, là on parle d'elle, il y a un truc quand même, je viens avec des vraies propositions, elles sont chiffrées, oui je le ferai, pourquoi vous dites que c'est impossible et pourquoi votre seul programme c'est de me dire que rien ne va changer? Je pense que ça, électoralement, il y a un basculement aussi.
Et l'aspect nouveauté sans doute. Un chiffre pour vous Jérôme Jaffray, je vous donne tout de suite la parole, sur TikTok. Lors des 15 premiers jours de février, on lisait ça dans Ouest France, plus de 3500 publications évoquent les élections, elles cumulent 22 millions de vues, 1,2 million de mentions j'aime, comme quoi les réseaux sociaux parlent aussi de politique. Sarah Knafo, Rachida Dati, Sébastien Delogu, Grégory Doucet, Éric Ciotti sont les 5 personnalités qui concentrent plus de 60% de vues faites par les candidats aux municipales sur TikTok. Ça fait plusieurs chiffres. Allez-y, Jérôme Jaffray.
Oui, en tout cas, dans tout ça, et pour rester sur le plan de l'analyse politique, je ne suis pas spécialiste de TikTok, soyons honnêtes, le lien entre la droite et l'extrême droite est l'un des sujets majeurs de ces élections municipales. On le voit à Paris et on le voit à Marseille. Paris, il faut bien voir que Paris, l'extrême droite, c'est à l'opposé absolu de ce qu'est l'électorat parisien. Nationalement, Macron, en 2022, bat Le Pen avec 58,5% des suffrages exprimés, 41,5% pour Le Pen. À Paris, c'est 85% Macron, 15% Le Pen. Et nous avons Sarah Knafo, qui est candidate de Reconquête, qui siège au Parlement européen dans le même groupe que le parti issu du néo-nazisme allemand, l'AFD, et qui arrive à se présenter comme une candidate de droite comme les autres. Et on a énormément de Parisiens qui acceptent cette approche, qui considèrent qu'effectivement Sarah Knafo peut rentrer dans le schéma de la droite. On a des leaders politiques, ça a été le cas de Laurent Wauquiez. C'est maintenant le cas stupéfaction de Michel Barnier, qui disent pourquoi pas à la présidentielle faire une primaire qui aille de Sarah Knafo à Édouard Philippe. On a donc une situation de disparition. Et là-dessus, Sarah Knafo joue admirablement, car toute l'analyse brillante que mes éminents collègues ici présents ont faite, et que, évidemment, elle fait complètement oublier l'extrême droite, elle se désémorise. On pouvait penser qu'elle était la dernière personne en France à pouvoir se désémoriser. Eh bien, pas du tout. C'est très fort. Et ce qu'elle fera entre les deux tours est peut-être une clé pour la présidentielle qui va suivre. Et à Marseille, nous avons quand même une droite qui s'effondre au profit de l'extrême droite, avec une candidate qui a mis effectivement Pétain comme sa référence absolue. Alors, je pense que la part d'inculture doit jouer un rôle assez considérable.
Elle est un peu revenue dessus sur la même antenne quelques jours.
Un peu obligée, oui.
Même le RN s'en est
déçu. Probablement, y avait-il. Oui, parce que le RN, il n'oserait pas, lui, faire travail, famille, patrie, pas question. Il faut donc être une candidate à qui quelqu'un, dans la conversation, a glissé cette référence pétainiste et qui la reprend en disant c'est très bien, travail, famille, patrie, surtout, il faut respecter l'ordre des mots. Hein. Faut que personne s'y trompe. Et du coup, depuis, c'est intéressant, elle s'effondre. C'est-à-dire que si la droite applique exactement la position de l'extrême droite, elle s'effondre. C'est ça un message qui est d'une puissance extraordinaire vers la présidentielle. Mais donc, on a une situation où, du coup, nous avons Knafo qui tient les clés de l'élection à Paris pour Rachida Dati, puisque Bournazel est dans un autre parcours. Et deuxièmement, à Marseille, le face-à-face est devenu un face-à-face entre Benoît Payan et Franck D'Alizio, où donc la droite, Alizio, vous avez raison, a disparu. La droite a disparu à Marseille. Enfin, attendons le verdict des urnes. Mais la pente est en tout cas engagée.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villene.
Vous écoutez France Culture, l'esprit public. Merci de nous rejoindre. Comme tous les dimanches, nous sommes en compagnie de Jérôme Jaffré, qu'on vient d'entendre, le chercheur associé au CVPOF de Sciences Po, d'Adélaïde Zulfikar Passic, directrice générale du pôle Société chez Ipsos BVA, d'Arthur Chevalier, éditeur et chroniqueur, et de Raphaël Yorca, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique. J'aimerais vous entendre tous les quatre sur ces débats. Vous mentionniez les débats Arthur Chevalier à Paris. Je crois qu'il y en a eu qu'un pour l'instant, hein, sur France 3 Île-de-France.
Oui, je mentionne aussi les autres débats qui ont lieu à Marseille et à Lyon.
Ah d'accord, très bien.
Mené par BFM TV.
Que pensez-vous, les uns et les autres, de cette stratégie de la chaise vide qui a été mise en scène par le débat à Lyon, organisé par Lyon Décideur et la Tribune de Lyon, avec une chaise vide pour Jean-Michel Aulas. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'était assez dur pour lui, je pense, d'avoir cette chaise vide. Pourquoi ? Ce sont les favoris, Arthur Chevalier, les favoris qui n'y vont pas ?
Alors, concernant Jean-Michel Aulas, si j'avais été son conseiller spécial, je lui aurais dit de le faire aussi, de ne pas y aller d'un point de vue... Bien sûr, Jean-Michel Aulas sera... Il ne descend pas en dessous de 43% des intentions au premier tour. Jean-Michel Aulas, faut bien dire ce qu'il est quand même, ne fait pas une campagne foudroyante. Il a fait un débat sur BFM TV, on va dire, un peu approximatif. Il est apparu un peu lent, un peu approximatif. Voilà, c'est la vérité. Et pourtant, sans rien faire, juste avec son statut et sa carrière qui est réelle, hein, c'est un mérite aussi d'avoir fait une carrière, faut pas abuser non plus, eh bien il ne descend pas en dessous des 40%, et Grégory Doucet a franchi des lignes rouges, culturelles à mon avis à Lyon, qui lui ont fait perdre énormément de ses électeurs, qui paye aujourd'hui tout ce qu'il peut, avec un bilan qui est très contesté. Et donc Jean-Michel Aulas, de toute façon, si vous êtes lyonnais, soit vous votez RN, soit vous votez Doucet, mais Aulas permet de rassembler un maximum de gens. Donc je pense qu'objectivement, dans le cas de Aulas, il n'a rien à perdre et il sera élu sans problème parce que c'est un peu le choix du moins pire. Je pense que ça met d'accord tous les Lyonnais. Après, pour ce qui concerne les autres, non, ça ne serait pas conseillé. Ni Rachida Dati, ni naturellement à Alizio à Marseille ou à Benoît Payan, puisque eux sont vraiment dans
eux
un duel.
Eux les font, hein, à Marseille, on voit les débats. Touche.
Mais Jean-Michel Aulas est dans une situation, c'est le seul dans ces trois villes, où il est déjà quasiment élu au premier tour, c'est la vérité.
Adélaïde Zulfikar Passic.
Pour rebondir sur ce que disait Arthur Chevalier, je pense que c'est intéressant, effectivement, en tout cas d'après les enquêtes d'opinion, ce score présumé de Jean-Michel Aulas sans vraiment faire campagne. Et ça dit quelque chose, à mon sens, de la faillite du politique, sur le fait que, parce qu'il est issu de la société civile, et il y a pas mal d'enquêtes d'opinion en ce moment qui disent que les Français seraient très ouverts à avoir un président de la République qui serait, par exemple, un patron. Il jouit de cette force-là, le fait qu'il n'est pas issu directement de la classe politique. Le fait qu'il soit aussi rattaché au monde du sport, moi j'étais assez frappé ces dernières années de voir la difficulté qu'ont les politiques à créer un récit commun, un récit aspirationnel, quelque chose qui rassemble les Français. Et les seuls moments, s'il faut regarder dans l'histoire récente, où on a permis de rassembler les Français avec autour de notions de fierté, de grandeur retrouvée, c'était pendant les JO et au moment de la Coupe du Monde de foot. Donc lui, il a cette double casquette, patron, monde du sport, qui permet de fédérer. Et juste en faisant campagne là-dessus, ou sans faire campagne là-dessus, en tout cas, ça lui permet de prospérer. Sachant par ailleurs, effectivement, c'est ce que disait Arthur Chevalier, Grégory Doucet est plutôt en mauvaise posture parce qu'il est jugé assez sévèrement par les Lyonnais. Je vous donne deux chiffres. 70% des Français, de manière générale, sont satisfaits du bilan de leur maire sortant. 70%. À Lyon, c'est 60% qui sont mécontents du bilan de Grégory Doucet, notamment sur des sujets comme la circulation, sur la question de la sécurité. Et vous avez une majorité nette de Lyonnais, d'après une enquête Ipsos BVA pour le groupe Ebra, qui ne souhaite pas la reconduction de la majorité sortante. Donc voilà. Donc Jean-Michel Aulas, c'est sur tout ça qu'il prospère. Donc de fait, il n'a pas forcément intérêt à aller prendre des coups dans un débat télévisé.
Mon parti, c'est Lyon. Je réponds à un certain nombre de demandes. Et puis, je n'ai pas d'idéologie politique. J'ai un certain nombre de recettes qu'on va essayer d'appliquer. Et du bon sens, qui correspond en fait en ce moment, me semble-t-il, à la demande des Lyonnaises et des Lyonnais.
Vous savez très bien ce que disent ceux qui disent... Quand on dit « j'ai pas d'idéologie », souvent on dit « en fait, il est de droite ».
Oui, alors on l'a dit, effectivement, surtout les journalistes d'ailleurs, mais dans la pratique, non. Vous voyez bien que j'ai réuni l'ensemble des partis de centre-gauche à la droite, c'est vrai, en excluant les extrêmes, mais en faisant en sorte que les gens collaborent. Et ma plus grande réussite actuelle, c'est de mener des discussions avec des gens qui sont de partis différents et qui s'entendent bien, qui sortent des réunions avec le sourire.
On vient d'entendre Jean-Michel Aulas, on en parlait, l'ancien président du club de football de Lyon, l'Olympique Lyonnais, qui se lance dans cette campagne des élections municipales ici sur LCI le 13 janvier 2026 face à notre confrère Darius Rochebain. Est-ce qu'il y a une marque Aulas qui fonctionne, Raphaël Yorca, vous qui êtes le spécialiste des marques en politique?
Alors moi, ce qui me frappe, c'est une forme de paradoxe, c'est-à-dire que c'est au fond le candidat de la promesse macroniste originelle, c'est-à-dire celle d'une régénération de la politique par la société civile, au moment même où le macronisme est tout de même un peu finissant. Donc je trouve que là, il y a un décalage de temps et de temporalité qui me semble tout à fait intéressante. Une précision peut-être importante, Jean-Michel Aulas est le candidat soutenu par les partis LR, Renaissance, Horizon, Modem et UDI. Je ne sais pas dans quel parti il classe le centre-gauche, mais j'ai du mal personnellement à le voir. Je voulais tout de même réagir sur cette affirmation qui est très intéressante politiquement, qui n'est pas nouvelle, hein, mais je n'ai pas d'idéologie politique et, dit-il, j'ai des recettes et du bon sens. Il se trouve que dans l'enquête IFOP pour Terram que je citais tout à l'heure, il note qu'il y a à l'échelle nationale une chute de la connaissance de la tendance politique du maire de leur commune. C'est-à-dire qu'en 2026, seulement 47% des interrogés disaient connaître la tendance politique du maire de leur commune. Ils étaient 16 points de plus lors du dernier scrutin. Et alors j'ai regardé, en 83, 81% des gens connaissaient la tendance politique de leur maire. Donc ça, c'est un premier élément. On ne sait plus à quelle étiquette appartient notre maire. Et deuxième élément, il y a peut-être une demande, justement, auquel répond Jean-Michel Aulas, de sortie de l'idéologie. Parce que j'ai regardé la façon dont se positionnaient les Français. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que les maires rejettent toute approche idéologique et toute étiquette? Eh bien, il y a une chute des gens qui disent c'est une mauvaise chose. Il y a une chute de 18 points en seulement 6 ans. C'est énorme. Il y a 36% des gens qui disent c'est plutôt une bonne chose. Et ce qui je trouve intéressant, c'est la progression des c'est sans importance. Ça prend 20 points. Donc, au fond, cette question de l'adhésion et de l'étiquette politique, on le voit avec les sondages. Jean-Michel Aulas montre bien que, en réalité, ça peut être quelque chose d'assez parlant, électoralement parlant.
Sur ce point, si vous permettez, Raphaël Lorca, et avant de, bien sûr, de vous redonner la parole, c'est un point effectivement très très important. Les électeurs attachent moins d'importance à l'étiquette politique et les maires ne veulent plus d'étiquette politique. Car je suis moi frappé du nombre des maires qui étaient autrefois socialistes ou qui étaient autrefois UMP républicains. Eh ben, ils sont massivement devenus divers gauche ou divers droite. Ils ont massivement quitté le parti politique qui les a fait élire. Et par exemple, la métropole de Lyon, qui aura l'essentiel du budget si M. Aulas est élu, il ne sera pas élu au premier tour. S'il est élu, il ne pourra être élu qu'au second tour. Mais s'il est élu, c'est une candidate des Républicains, inscrite chez les Républicains, qui est candidate pour présider la métropole de Lyon. Mais le débat de la métropole de Lyon passe alors totalement sous les radars. C'est M. Aulas qui occupe la surface politique et la surface médiatique. Les partis sont derrière. Donc ne nous y trompons pas. Les maires savent que les électeurs ne veulent plus des étiquettes partisanes et les partis se placent derrière les têtes de liste.
Raphaël Yorca.
Oui, je voulais rester à Lyon et élargir à la question de Grégory Doucet et peut-être plus largement au bilan des villes gagnées par les écologistes lors du dernier scrutin municipal. C'était l'une des principales nouveautés du dernier scrutin. Et où, au fond, je trouve que la situation très difficile de Grégory Doucet dans cette campagne-là illustre bien la difficulté des maires écologistes à faire valoir leur bilan. Et en l'occurrence, ils ont un bilan. Moi, je suis allé un peu regarder du côté de Lyon. 14 hectares de nature regagnée sur le bitume, 10 000 arbres plantés, un trafic automobile qui a reculé de 13%, des émissions de CO2 qui ont baissé de 36% entre 2019 et 2025, des particules fines qui reculent sur la même période de 18%. Donc, on voit bien que sur la dimension environnementale, les transports, etc., il y a un bilan. Simplement, il y a une très grande difficulté à faire valoir ce bilan. Et effectivement, 4 Lyonnais sur 10 disent que leur qualité de vie à Lyon s'est dégradé. Donc on voit bien qu'une une ville qui est en chantier, qui se métamorphose, ça suscite beaucoup de mécontentement et c'est en partie ce qui explique sa difficulté dans cette campagne.
Adélaïde Zulfikar-Passic.
Non, je voulais juste donner quelques chiffres pour rebondir sur ce que disait Jérôme Jaffré sur la question des étiquettes. Le ministère de l'Intérieur a publié il y a quelques jours la liste des 880, près de 890 000 candidats aux municipales. Il faut savoir que dans 69% des communes de France, donc une large majorité, il n'y aura qu'une seule liste et cette liste est sans étiquette dans 98% des cas. Donc c'est pas simplement que les électeurs ne s'intéressent pas à la question de l'étiquette, c'est qu'effectivement, de plus en plus, les candidats concourent sans étiquette. Et pour revenir sur ce que disait à l'instant Raphaël Lorca sur le bilan des maires écologistes, et que je partage complètement, on a fait une série d'enquêtes pour les titres du groupe EBRA dans les 5 villes de l'Est qui avaient été gagnées par les écologistes en 2020. Alors, il faut quand même rappeler que cette poussée écologiste, elle avait été notamment favorisée par le Covid, parce qu'il faut, comme on a eu un vrai décroché de la participation de la part, et on l'a pas beaucoup dit à l'époque, moi je trouve, on a eu un vrai décroché de la participation de la part des plus âgés, notamment les 65 ans et plus, qui traditionnellement votent davantage quand même pour la droite traditionnelle, LR, et donc mécaniquement, on a une participation proportionnellement plus importante des plus jeunes, notamment dans les centres urbains, qui ont favorisé l'accession des écologistes à la mairie. Ça c'est le premier point, donc du coup c'est vrai qu'ils ont un bilan qui se défend dans un contexte où rien n'est acquis pour eux, parce que si on revient à une situation plus normale, ils sont déjà fragilisés par ce sujet-là. Et par rapport à ce que disait Raphaël, donc dans les enquêtes que je citais, oui, le bilan sur les questions d'environnement, il est reconnu par les habitants de ces différentes villes, que ce soit Besançon, Grenoble, Annecy ou Lyon par exemple. Mais il se heurte à d'autres sujets, notamment la question de la circulation, la question de la sécurité. Et on sait aussi, on le voit depuis les européennes, on a parlé du fameux backlash sur les questions écologiques. On voit que la question environnementale, si elle reste une préoccupation en toile de fond des Français, elle se heurte toujours à des préoccupations plus immédiates, plus concrètes. Et donc, comment je circule dans ma ville au quotidien, ça passe avant. Est-ce que les particules fines permettent que je respire mieux ?
Arthur Chevalier.
Oui, je trouve que c'est intéressant, si vous me permettez de faire un détour. Il se passe à l'échelle municipale, au fond, ce qui se passe aussi à l'échelle nationale. Et je disais que les partis ne valaient pas grand-chose dans un schéma démocratique. Enfin, ils ne portaient pas grand-chose en eux, ils n'avaient pas une telle importance. C'est-à-dire qu'il se passe quand même quelque chose d'objectif dans ce pays. C'est qu'il y a des sujets sur lesquels il y a une unanimité d'opinion, à peu près, quoi. Plus de 70% des Français qui sont d'accord sur un sujet, et sur lesquels il n'y a aucune réponse démocratique. Je veux dire, il n'y a pas de lois qui sont votées là-dessus. Et c'est pas un truc seulement de droite ou de gauche. Vous voyez, par exemple, l'immigration, le nucléaire, la fin de vie. Vous voyez, ces sujets-là, le statut des fonctionnaires, c'est des sujets sur lesquels il y a plus de 65% des Français qui sont à peu près d'accord. Parfois 75-80. Par exemple, les gens veulent plus de centrales nucléaires à plus de 70%. 65% des Français, en 2021, voulaient la suppression du statut de fonctionnaire dans la fonction publique avec une majorité de gauche. Chose totalement remarquable. Évidemment, sur l'immigration, il y a une forte demande aussi. Sur la fin de vie, 87% des Français sont pour le suicide assisté. Vous voyez, donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il y a une unanimité et il n'y a aucune réponse de la part du pouvoir
législatif. C'est en cours sur la fin de vie.
Mais ça va d'une part très lentement et deuxièmement, on voit bien qu'il y a une réticence. On a peur de ça, on ne veut pas donner de réponse. Donc je pense qu'il y a un corps idéologique qui est totalement transversal au parti. Les Français, ils peuvent se dire être électeurs socialistes et sur certains sujets, penser une chose que le Parti Socialiste ne veut pas porter. Vous voyez, ça existe aussi. Des individus, c'est pas tous des militants. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas ne pas remarquer non plus pour ces municipales que la gauche est quand même... de façon inquiétante, marginalisée. Je veux dire, c'est quand même vrai. Emmanuel Grégoire est mis en danger à Paris alors que, a priori, la sociologie lui était favorable. À Marseille, quand même, Marseille qui est à deux doigts de tomber pour le Rassemblement National, c'est quand même un sujet. À Lyon, Grégory Doucet, c'est un effondrement. Je veux dire, il y a quand même un point commun dans ce dont on parle. C'est l'effondrement total de la gauche. Je parle de la gauche et puis, bon, avec l'extrême gauche aussi, la France Insoumise, mais globalement, ils font 30% en face. Vous avez un bloc de 70% qui est à peu près stable et homogène partout. Donc, ça doit bien vouloir dire que électoralement, il y a des sujets qui sont mal répartis, mal défendus. Il y a un truc qu'on n'a pas compris dans les électorats, quoi. Voilà, ça que je veux dire. Et donc, par exemple, c'est intéressant ce que vous dites sur la satisfaction ou le bon bilan des maires écologistes en matière environnementale. Peut-être, mais c'est un avis personnel, peut-être qu'en fait, l'environnement, c'est un sujet tertiaire pour des électeurs. Peut-être qu'ils préfèrent la sécurité, peut-être qu'ils préfèrent la qualité de circulation, peut-être qu'ils préfèrent le logement. Et peut-être qu'en fait, l'environnement, bah oui, ils jugent que c'est pas un sujet prioritaire. Et au fond, même un élu écologiste pourrait leur démontrer qu'il a très bien fait. Un électeur pourrait très bien dire, et après tout, qui sommes-nous pour le juger ? Sans doute, mais sur ces sujets-là, pour moi, c'était plus important.
Après, on pourrait sans doute trouver des sondages où 70% des Français veulent de la bonne nourriture ou des choses saines, de l'air pour leurs enfants.
Non, je parle des sondages d'opinion qu'on voit là.
Oui, mais ça existe bien aussi.
Oui, mais là, les sondages montrent quand même qu'il y a une marginalisation de ces partis qui, a priori, ont bien fait.
Et puis ça va peut-être dépendre des villes aussi, sur le bilan des écologistes. On voit qu'à Bordeaux, il est moins en difficulté peut-être qu'à Lyon, le maire.
Deux remarques sur ce qui vient d'être dit, si vous permettez. D'une part, quand Arthur Chevalier dit que la gauche c'est 30%, ça n'est pas faux. À Paris, par exemple, Paris, la gauche qui est en très grande difficulté. Je regardais les résultats aux européennes. L'avantage des européennes, c'est que ça mesure les forces de parti et qu'on n'a pas la coalition. 53% aux européennes à Paris, les électeurs parisiens ont voté à gauche. contre 32% au plan national. C'est-à-dire que Paris est 20 points à gauche, et pourtant, la gauche n'est pas sûre de garder Paris. Mais quand Arthur Chevalier nous dit « en face, c'est un bloc homogène de 70% de l'électorat », ça, c'est pas rien comme remarque. Parce que si c'est homogène, ce sera au profit du Rassemblement National et de l'extrême droite, qui a la toute puissance, hein. 40% d'influence électorale pour l'extrême droite dans ce pays. Si le bloc s'homogénéise, ça ne peut se faire qu'au profit du Rassemblement National. Et donc, c'est un débat politique majeur pour la prochaine présidentielle. Y a-t-il ou non construction d'un bloc homogène ? Sur ce qu'a dit Adélaïde Sulfi-Carpazzi, qui est très intéressant, 69% dans des communes n'ont qu'une seule liste. Là, je dirais d'un mot, le mieux est l'ennemi du bien. Il y a une réforme majeure du mode de scrutin dans les petites communes de moins de 1000 habitants. Vous avez maintenant l'obligation d'avoir des listes complètes et non plus des listes incomplètes. Vous avez la fin du panachage qui existait avant, c'est-à-dire vous pouviez rayer un nom, choisir un nom d'une liste, choisir un nom d'une autre liste, et vous avez mis la parité. C'est une excellente chose, parité homme-femme, donc liste complète. Bilan, c'est beaucoup plus difficile dans les toutes petites communes de faire des listes. Et du coup, vous aboutissez à la situation où vous avez une liste parfaite en termes de cohérence, de parité et compagnie, mais une seule liste et pas de choix pour les électeurs. Car le choix pour les électeurs, ça suppose d'avoir au moins deux listes. Et effectivement, toutes les communes dont parle Adélaïde Sulfi-Carpazzi, c'est des communes petites, les petites communes avec une seule liste. Et donc, des électeurs, et ça, ça va faire baisser le niveau de participation électorale dans ces petites communes, où vous n'offrez plus de choix aux électeurs. Et donc, il y a des côtés, si vous voulez, la démocratie progresse, mais la démocratie, c'est aussi le choix. On doit pouvoir choisir entre plusieurs listes.
Raphaël Yurka.
Juste une précision et une remarque sur ce qu'a avancé Arthur Chevalier sur l'effondrement de la gauche. Il faut faire attention parce que les scores de premier tour ne sont pas catastrophiquement en deçà de ceux d'il y a 6 ans. Bien au contraire.
On n'a pas encore de score.
Alors on n'a pas de genre. Je me base effectivement déjà sur
c'est
les
dans une semaine, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent.
Mais
c'est
pas, tout ce pas qu'on a aujourd'hui. Hein,
regardons Emmanuel Grégoire donné dans le dernier Ipsos à 35% au premier tour. Anne Hidalgo, il y a 6 ans, a gagné au premier tour 29%. À Marseille, Benoît Payan...
Il a les écologistes avec lui, ce que n'avait pas Anne Hidalgo il y a 6 ans. C'est un détail, mais ça compte.
Absolument.
Hidalgo plus les écolos, c'est 40% il y a 6 ans.
Absolument. Bon, d'accord. Bon, effectivement, la remarque est extrêmement juste. Je regarde Benoît Payan à Marseille, dans le dernier IFOP, il donnait à 35%. Michel Rubirola, il y a 6 ans, était à 23%. Alors là aussi, il y avait un éclatement des listes, etc. Grégory Doucet, il y a 6 ans, était à 28,5%. Il est aujourd'hui à 30%. Donc on voit bien que ce bloc de gauche, il résiste tout de même. La réalité, c'est les alliances en face, et c'est la question du bloc des restants.
Mais là, vous parlez des pourcentages. Les pourcentages, c'est une chose, mais les pourcentages, ils n'ont d'intérêt que s'ils reflètent par rapport à d'autres. C'est-à-dire que, oui, non, mais je veux dire par là, c'est que Grégory Doucet, vous dites qu'il n'a pas bougé en termes de pourcentage, oui, sauf qu'en face, il y a un type qui fait 45. Donc, si vous voulez.
C'est vrai que c'est un grand écart quand même. Bah, non,
ça crée quand même un effet de minorisation de ce pourcentage-là. Un pourcentage, c'est pas une valeur absolue, c'est ce que je veux dire.
Absolument, mais en l'occurrence, dans le cas de Lyon, le score du 44% s'explique qu'il y a 6 ans, oui, il y avait un éclatement du centre qui était réparti entre différentes listes, qui cette fois-ci ont trouvé un terrain d'entente électoral.
Mais c'est pour ça
qu'il faut faire attention, parce que ça veut dire qu'électoralement, il n'y a pas un reflux de l'électorat de gauche qui ne cesserait de voter pour ces candidats, c'est que l'offre électorale étant différente, elle se reconfigure sur d'autres candidats, etc. Mais il faut juste faire attention, il n'y a pas un reflux énorme de l'électorat de gauche dans ces trois grandes villes.
Zulfi Karpasik, et puis après, il faudra aller à vos coups de cœur.
Je rejoins Raphaël Lurka, je partage votre analyse. À Lyon, c'est particulier, je l'ai rappelé tout à l'heure, Lyon est quand même historiquement une ville plutôt de droite qui a basculé chez les écologistes à la faveur, encore une fois, du Covid et d'une participation différentielle qui a favorisé un électorat plutôt de gauche. Ça, c'est le premier point. Et à Paris, Jérôme Jaffré l'a rappelé très justement en rappelant le résultat des européennes et en montrant qu'il y a quand même un bloc majoritaire d'électeurs qui votent encore à gauche à 50%. Le vrai sujet qui fait que peut-être, et encore une fois on se base sur des enquêtes d'opinion avec toutes les précautions d'usage qu'il convient de prendre, peut-être qu'Emmanuel Grégoire pourrait perdre la ville, en tout cas le PS, c'est la question du mode de scrutin, la question du seuil de qualification dont on a parlé tout à l'heure à 10% qui fait qu'on a potentiellement jusqu'à 5 listes aujourd'hui qui pourraient se qualifier au second tour à Paris, et donc la question des alliances entre les deux tours dont on a finalement assez peu parlé. Qu'est-ce qui va se passer entre Rachida Dati, Sarah Knafo, Pierre Bournazel? Que va-t-il se passer entre LFI et Sophia Chikirou se qualifie et Emmanuel Grégoire? Donc tout ça, ce sont des inconnus aujourd'hui dans l'équation qui vont peser de manière déterminante sur l'issue du second tour le 22 mars.
Il est déjà l'heure de passer à votre coup de cœur. Je rappelle que le premier tour de ces élections municipales se déroule la semaine prochaine, le 15 mars. Adélaïde Zulfikar-Passy, vous aviez la parole, gardez-la. Vous êtes la directrice générale du pôle société chez Ipsos BVA. Votre dernier livre, Réhumaniser la société de l'absence, aux éditions de l'Aube. Avez-vous une recommandation pour nos auditeurs et auditrices?
Oui, alors moi j'ai choisi un roman que je viens de lire qui s'intitule Voyage, voyage de Victor Pouchet chez Gallimard, paru l'année dernière. Et je trouve que c'est un livre qui tombe un poids nommé sur la nécessité vitale de la futilité dans les moments de gravité qu'on connaît un peu en ce moment. Si je vous dis en deux mots le pitch, c'est après un drame personnel, le personnage principal souhaite mettre en place ce qu'il appelle la théorie de la grande diversion. En d'autres termes, il veut se changer les idées. Et c'est exactement ce que permet ce livre en ces temps troubles, je pense à la crise internationale. Et le couple qui est au cœur de l'histoire se ressource en décidant de faire un tour de France des musées insolites. Et donc voilà, donc c'est un roman qui est à la fois réconfortant, qui permet de s'évader, je trouve intéressant parce qu'il permet de faire un tour de France des villages méconnus, ce qui est assez approprié juste avant les municipales où on a justement tendance à parler des grandes villes et à occulter les 35 000 autres communes.
Il faut dire que c'est très difficile pour notre décharge de faire des analyses sur des petites communes.
Bien sûr, aussi pour les raisons qu'on a rappelées.
Arthur Chevalier, éditeur chez Passé Composé, chroniqueur au Point, l'histoire à l'épreuve des émotions aux éditions du Cerf, c'est votre dernier livre.
Oui, alors moi mon coup de cœur c'est un recueil d'articles inédits de Gramsci qui est paru chez Grasset au Cahier Rouge, ils l'ont intitulé ça, Commander le fascisme, c'est très court, il y a une très très bonne introduction, et c'est intéressant parce que c'est des articles que Gramsci a écrits quand il a vu le bloc fasciste exploser, et il le commente avec l'intelligence qu'on lui connaît, mais ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de lire de Gramsci, c'est-à-dire ses cahiers de prison, et notamment il émet une idée que je trouve très très intéressante, c'est qu'en fait il dit que l'Italie a voté fasciste, pas parce que ce que les fascistes identifiaient comme des problèmes existait, mais parce qu'ils étaient convaincus que ces problèmes allaient arriver. Et son analyse, ça veut dire qu'en fait, le vote fasciste, le vote d'extrême droite, est un vote préventif, en réalité. Et donc le but pour des partis d'extrême droite, ça n'est pas de dire qu'une chose existe, mais de faire croire qu'elle va arriver. Et je pense que ça fonctionne d'ailleurs aussi pour l'extrême gauche, et la mort du jeune Quentin est un élément très intéressant.
On n'en a pas parlé, c'est dommage.
Non, mais je veux dire, c'est que la mort du jeune Quentin, en fait, elle a donné, je pense, le signal auprès d'un électorat français que des groupuscules violents d'extrême gauche pourraient agir de façon décisive au sein de la démocratie. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais elle donne le signal que ça peut arriver. Je pense que les éléments préventifs et les signaux faibles sont aussi des éléments qui déterminent le vote. Voilà,
un très, surtout très bon, qu'on a appris cette semaine, je le dis pour nos auditeurs et auditrices, je suis désolée qu'on ne s'y soit pas attardé, que la gauche pouvait s'unir dans le second tour finalement.
Ce qui, à mon avis, est un choix politique très engageant.
Et Grégory Doucet au second tour à Lyon, hein, où s'est déroulé ce drame. Jérôme Jaffray.
Alors, je resterai, moi, dans mon domaine, mais un peu dans la ligne de ce que vient de dire Arthur Chevalier. Moi, je recommande le livre d'éminents collègues du CEVIPOF, Anne Muxel et Pascal Perrineau viennent de publier « Inventaire des peurs françaises » chez Odile Jacob. Et il est évident qu'avec la grande crise internationale que nous connaissons et des différents sujets dont nous venons de parler, nous sommes au cœur des débats. Et je suis très intéressé par l'idée, effectivement, du risque préventif, du vote préventif, s'applique. C'est au fond, d'abord, les peurs sont évidemment multiples. Elles traversent la société. Ça va être une des grandes questions vers 2027. Et nous avons le problème de la réponse. Et en lisant Anne Muxel et Pascal Perrineau, on arrive à comprendre un peu collectivement. Ils s'appuient aussi sur une enquête et sur leur connaissance de la théorie politique. Vous avez la peur qu'on cultive, qu'on utilise dans le débat politique et qu'on fait déboucher sur une colère, un vote de colère, un vote de protestation qui s'appuie sur des peurs sans vraiment chercher à apporter des réponses aux peurs. Parce qu'il faut cultiver la peur pour rester dans la colère et dans la protestation. Et puis vous avez une autre type d'attitude et qui n'est pas assez développé dans le débat politique français, c'est la peur qui crée une prise de conscience collective pour arriver à sortir, à aboutir à un sursaut et à une réponse. Débat fondamental pour 2027.
Raphaël Yurka, votre coup de cœur ?
Oui, je reste d'une certaine manière dans la cartographie des peurs, puisque je recommande un très joli essai publié aux éditions Amsterdam, « Politique du polar », d'une certaine Lucie Amir. Polar, qui est un genre littéraire en soi, qui a une prégnance très importante dans l'audiovisuel, hein, parce que la quantité de fiction produite par l'audiovisuel public en termes de polar est absolument considérable. Et donc, elle analyse la dimension politique du polar, et en posant au fond une question que je trouve très intéressante, assez contre-intuitive. On projette souvent dans le polar une fonction de critique sociale très affirmée. La question qu'elle pose, c'est la suivante, c'est est-ce qu'on ne projette pas de façon indue une attente politique qui, en réalité, quand on regarde dans le détail, n'est pas aussi prégnante que ça.
Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes essayiste et expert associé à la Fondation Jean Jaurès, où vous êtes co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique et l'auteur du roman national des marques aux éditions de l'Aube. Moi, mon coup de cœur, c'est pour l'auditorium de Radio France. Allez-y, courez-y. J'ai eu la chance d'assister à un concert. Il y a des places pas chères, notamment pour les moins de 30 ans. Venez à la billetterie, on vous donnera des conseils. Ça vaut le coup. Merci infiniment. Infiniment de nous avoir suivis. La semaine prochaine, une émission consacrée aux enjeux internationaux. Et j'aurai la joie de co-animer avec Jean Lemarié la soirée électorale dès 19h30. Nous serons d'ailleurs avec Anne Muxel, dont vous venez de parler, Jérôme Jaffré. Merci à tous les quatre. Et à dimanche prochain, 11h.